19. Il retourne au siège de Finder Keepers, dans la Jeep de Jérôme. Comme l'arrière est rempli de son bazar, Freddy doit s'asseoir sur les genoux de quelqu'un, et il n'est pas question que ce quelqu'un soit Hodges. Pas dans son état de santé actuel. Il prend donc le volant, et Jérôme prend Freddy sur ses genoux.
« Waouh ! C'est un peu comme décrocher un rancard avec John Shaft !» dit Freddy avec un petit sourire moqueur.
« Le grand détective privé que toutes les filles voient comme une bête de sexe !»«
Rêve pas trop !» conseille Jérôme. Le portable de Holly sonne. C'est un gars du nom de Trevor Jepson, de la brigade d'informatique légale. Holly parle bientôt dans un jargon que Hodges ne comprend pas. Il est question de bots et de Darknet. Ce que le gars lui raconte en retour semble la ravir, parce que lorsqu'elle raccroche, elle sourit.
Il n'a jamais lancé d'attaque DOS sur un site web de toute sa vie. On dirait un gosse le matin de Noël.
Ça va prendre longtemps.
En ayant déjà le mot de passe et l'adresse IP?
Non, pas très longtemps. Hodges se gare sur l'un des emplacements 30 minutes gratuites devant le Turner Building. Ils ne vont pas y rester très longtemps. Si la chance lui sourit, cela dit. Et compte tenu de la malchance qui le poursuit depuis peu, il estime que l'univers lui doit bien ça. Il va dans son bureau, ferme la porte et écume son vieux carnet d'adresses en lambeaux pour retrouver le numéro de Becky Elmington. Holly lui a proposé d'importer son carnet d'adresses dans son téléphone, mais Hodges n'a pas cessé de remettre ça à plus tard. Il aime bien son vieux carnet. « N'aura sans doute plus le loisir de faire le transfert maintenant », se dit-il. Dernière enquête de Trent et tout ça. Becky lui rappelle qu'elle ne travaille plus au bocal.
« Vous l'aviez peut-être oublié ?»«
Non, j'ai pas oublié. Vous êtes au courant pour Babino ?» Elle baisse la voix.
« Mon Dieu, oui. J'ai entendu dire que Al Brooks, Biblial, avait assassiné la femme de Babino et qu'il pourrait avoir assassiné Babino aussi. J'ai du mal à le croire. »
« Je pourrais vous raconter beaucoup de choses que vous auriez du mal à croire, » se dit Hodges. « Ne mettez pas encore Babino hors course, Becky. Je pense qu'il est peut-être en fuite. » Il administrait des drogues expérimentales à Brady Hartsfield, lesquelles ont pu jouer un rôle dans son décès.
Non, sérieusement.
Sérieusement. Mais il ne peut pas être allé bien loin, pas avec la tempête qui menace. Vous avez une idée d'un endroit où il aurait pu se réfugier? Babino possède-t-il une résidence secondaire ou quelque chose comme ça? Elle n'a pas besoin de réfléchir pour répondre.
Pas une résidence secondaire, non, mais un camp de chasse. Et il n'est pas qu'à lui. 4 ou 5 toubibs se le partagent.
Sa voix reprend le ton de la confidence.
Je me suis laissé dire qu'ils font plus que chasser là-bas, si vous voyez ce que je veux dire.
Et c'est où ce là-bas?
Lac Charles. Le camp a un nom branché assez horrible. J'arrive pas à me rappeler là tout de suite, mais je parie que Violette Tran saura. Elle y a passé tout un week-end une fois. Elle m'a dit que c'était les 48 heures les plus alcoolisées de sa vie, et elle est revenue avec une chlamydia.
Vous voulez bien l'appeler?
Bien sûr, mais s'il est en fuite, il a pu prendre un avion, vous savez, pour la Californie, ou même l'étranger. Les aéroports tournaient encore ce matin.
Je pense pas qu'il aurait osé l'aéroport avec la police à ses trousses. Merci, Becky. Rappelez-moi.
Il se dirige vers le coffre-fort et tape la combinaison. La chaussette remplie de billes d'acier, son happy slapper, est chez lui. Mais ses deux revolvers sont là. Le Glock 40, qui était son arme de service, et le 38 modèle Victory, qui était celui de son père. Il prend un sac de toile sur l'étagère supérieure du coffre, y range les deux armes et 4 boîtes de munitions, puis tire d'un coup sec sur le cordon de serrage.
Cette fois, pas de crise cardiaque pour m'arrêter, Brady, pense-t-il. Cette fois, c'est juste le cancer, et je peux vivre avec.
La formule l'amuse, et il rit.
Ça fait mal.
De l'autre pièce lui parviennent les applaudissements de 3 personnes. Hodges est quasi sûr de savoir ce que ça veut dire, et il ne se trompe pas. Le message sur l'ordinateur de Holly indique « The End rencontre des problèmes techniques », et en dessous « Appelez 1-800-273-TALK ».
C'est l'idée de ce gars, Jepson,
dit Holly sans lever les yeux de ce qu'il occupe.
C'est le numéro national de prévention contre le suicide des jeunes.
Impeccable, dit Hodges. Et ceux-là aussi sont impeccables. Tu es une femme aux multiples talents.
Une ribambelle de joints sont alignés devant Holly. Avec celui qu'elle rajoute, elle atteint pile la douzaine.
Elle est rapide, commente Freddy avec admiration. Et regardez comme ils sont réguliers, comme faits à la machine.
Holly lance un regard plein de défis à Hodges.
Ma thérapeute dit qu'une cigarette de marijuana de temps en temps, c'est très bien, du moment que je n'en abuse pas, comme certaines personnes.
Ses yeux dévient vers Freddy, puis reviennent sur Hodges.
En plus, ceux-là ne sont pas pour moi. Ils sont pour toi, Bill, si tu en as besoin.
Hodges la remercie et a une seconde pour s'émerveiller du chemin qu'ils ont parcouru tous les deux et combien le voyage a été agréable. Trop court cependant, beaucoup trop court. Puis son téléphone sonne. C'est Becky.
L'endroit s'appelle Têtes et Peaux. Je vous l'avais dit, un nom branché horrible. Violette ne se souvient pas comment on y arrive. J'imagine qu'elle avait bu quelques coups en route, histoire de se mettre en jambes. Mais elle se rappelle qu'ils ont pris l'autoroute vers le nord et qu'ils se sont arrêtés prendre de l'essence juste après la sortie. Une station appelée Garage Thurston. Ça vous est utile ?
Oui, énormément. Merci, Becky.
Il coupe la communication. Holly, j'ai besoin que tu me trouves le Garage Thurston, en montant vers le nord. Puis, je veux que tu appelles Hertz à l'aéroport et que tu réserves le plus gros 4x4 qui leur reste. On part en excursion.
Ma Jeep,
commence Jérôme,
est trop petite, trop légère et trop vieille, termine Hodges.
Même si ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles il veut un véhicule différent.
Mais elle sera parfaite pour nous conduire jusqu'à l'aéroport.
Et moi alors ? Demande Freddy.
Protection des témoins, dit Hodges. Comme promis, ce sera un rêve devenu réalité.
20. Jane Ellsbury était un bébé parfaitement normal à la naissance. À 2,9 kg, elle était même un peu en dessous de la normale. Mais à l'âge de 7 ans, elle pesait 45 kilos. Et le refrain qui la hante encore aujourd'hui lui était devenu familier.
« la grosse, passe plus la porte des cabinets, fais caca sur le plancher !»
En juin 2010, quand sa mère l'avait emmenée au concert des Round Here pour ses 15 ans, elle en pesait 105. Elle pouvait encore passer la porte des cabinets sans problème, mais elle commençait à avoir du mal à nouer ses lacets de souliers. Aujourd'hui, elle a 20 ans, son poids est monté à 160. Et quand la voix commence à lui parler dans le zapid gratuit qu'elle a reçu par la poste, tout ce qu'elle lui dit lui semble parfaitement logique. La voix est basse, calme, raisonnable. Elle lui dit que personne ne l'aime et que tout le monde se moque d'elle. Elle lui fait remarquer qu'elle ne peut pas s'arrêter de manger. Même là, alors que les larmes ruissellent sur son visage, elle est en train d'engloutir tout un paquet de sablé hollandais au chocolat, ce avec plein de guimauve collante à l'intérieur. Telle une version plus aimable de l'esprit des Noëls à venir, qui avait dit ces quatre vérités à Ebenezer Scrooge, le personnage de Charles Dickens. La voix lui esquisse un avenir qui se résume à grosse, encore plus grosse, toujours plus grosse. Au rire dans Carbine Street, au paradis des Petzouilles, où elle vit avec ses parents au deuxième étage d'un immeuble sans ascenseur. Au regard dégoûté. Au van comme
« Tiens, c'est la bonne femme Michelin !»
et
« Fais gaffe qu'elle te tombe pas dessus !»
La voix explique, logique et raisonnable, qu'elle n'aura jamais de petits copains, qu'elle ne trouvera jamais de bon boulot, maintenant que le politiquement correct a fait disparaître les femmes obèses des cirques, qu'à l'âge de 40 ans, il faudra qu'elle dorme assise, parce que ses énormes seins empêcheront ses poumons de faire leur travail, et qu'avant de mourir d'une crise cardiaque à 50 ans, elle aura besoin d'un aspirateur à main pour atteindre les miettes coincées entre ses plis de graisse les plus profonds. Quand elle essaye de suggérer à la voix qu'elle pourrait perdre un peu de poids, aller dans une de ses cliniques spécialisées peut-être, la voix ne rigole pas. La voix lui demande seulement, avec douceur et compassion, où elle trouvera l'argent, alors que les revenus combinés de son père et de sa mère suffisent à peine à satisfaire son appétit insatiable. Et quand la voix suggère qu'il se porterait mieux sans elle, elle peut seulement en convenir. Jane. Grosse Jane, pour les habitants de Carbine Street, gagne la salle de bain d'un pas lourd, et attrape le flacon de comprimé d'oxycontin que son père prend pour ses douleurs de dos. Elle les compte. Il en reste 30, ce qui devrait suffire largement. Elle les avale par 5, avec du lait, en mangeant un sablé hollandais après chaque gorgée. Elle commence à planer. «
Je commence un régime, » pense-t-elle. « Je commence un long, très long régime. »«
C'est ça, » lui répond la voix dans le zapit. « Et à celui-là, tu ne feras aucune entorse, Jane, pas vrai ?» Elle prend les 5 derniers comprimés d'oxy.
Elle veut ramasser le zapit, mais ses doigts ne veulent plus se refermer sur la fine console.
Et quelle importance ! Dans cet état, elle ne pourrait même plus attraper les poissons roses qui filent si vite. Mieux vaut regarder par la fenêtre la neige qui est en train d'ensevelir le monde sous un linceul propre.
Fini la grosse, pense-t-elle.
Et quand elle sombre dans l'inconscience, elle s'en va avec soulagement.
21. Avant d'aller chez Hertz, Hodges prend le rond-point qui les mène devant le Hilton de l'aéroport.
« C'est ça, votre protection des témoins ?»
demande Freddy. Hodges répond. « Vu que j'ai pas de maison sécurisée à ma disposition, cet endroit devra faire l'affaire. Je vais vous enregistrer sous mon nom. Vous vous enfermez dans la chambre, vous regardez la télé et vous attendez que tout ça soit terminé. »
« Et vous n'oubliez pas de changer votre pansement !»
ajoute Holly.
Freddy ne lui prête aucune attention. Elle s'adresse exclusivement à Hodges.
« Qu'est-ce que j'aurai comme ennui quand tout sera terminé ?»«
Je l'ignore, et je n'ai pas le temps d'en discuter avec vous maintenant. »«
Je pourrai au moins utiliser le room service ?»
Une faible étincelle lui dans les yeux injectés de sang de Freddy.
« J'ai moins mal maintenant, et je commence à avoir la dalle. »
« Ne vous privez pas, » lui dit Hodges. Et Jérôme ajoute,
« Jette quand même un œil par le Judas avant d'ouvrir au serveur. Des fois que ce soit les hommes en noir de Brady Hartsfield. »«
Tu déconnes ?»
lui dit Freddy.
« Hein ?»
Par cet après-midi enneigé, le hall de l'hôtel est mortellement désert. Hodges, qui a l'impression d'avoir été réveillé par le coup de fil de Pete il y a environ 3 ans, se dirige vers la réception, fait ce qu'il a à faire, puis rejoint les autres où ils sont assis. Holly est occupée à taper sur son iPad et ne lève pas la tête. Freddy tend la main pour avoir la clé de la chambre, mais Hodges la remet à Jérôme.
« Chambre 522, tu veux bien l'y conduire ? Il faut que je parle à Holly. »
Jérôme lève les sourcils, mais Hodges n'en dit pas plus. Alors il hausse les épaules et prend Freddy par le bras.
« John Shaft va maintenant vous escorter vers votre suite. » Freddy se dégage. J'aurai de la chance s'il y a un mini-bar.
Mais elle se lève et le suit jusqu'aux ascenseurs.
J'ai trouvé le garage Thurston, dit Holly. Il est à 90 km au nord sur l'I-47. La direction d'où arrive la tempête, malheureusement. Après ça, c'est la nationale 79. Le temps ne promet rien de
Ça va aller, lui dit Hodges. On a un Ford Expedition qui nous attend chez Hertz. C'est un bon véhicule bien lourd. Et tu me donneras toutes les indications en cours de route. Je veux te parler d'autre chose. »
Doucement, il lui prend son iPad des mains et l'éteint. Holly le regarde, et les mains jointes sur ses genoux, attend.